Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où je vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. C'est l'épisode numéro 408, nous sommes en juin 2021. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir pour parler notamment de la WWDC d'Apple, Cédric Ingrand. Comment vas-tu Cédric ?
Écoute, ça va comme un presque début d'été qui met de bonne humeur.
Je ne sais pas comment. Aussi.
Je ne sais pas ce qu'il en est chez toi, parce que toi, c'est l'hiver qui dure 10 mois, tout ça.
Non, mais là, justement, c'est l'été qui est arrivé avant l'été, parce qu'ici, on considère que l'été, c'est le 20 ou le 21 juin, tu vois. On n'est pas. Pardon, non. Ici, on considère au contraire. Contrairement à la France, on considère que l'été commence en juin, début juin. Donc, c'est effectivement l'été. D'accord. Il fait genre 20 degrés. Tu ne te rends pas compte. Pour les Finlandais, c'est la canicule. Il faut mettre de la crème solaire, tout ça, les chapeaux. C'est fou. C'est complètement amazing. Et on va donc parler d'Apple pour fêter l'été. C'est tout à fait approprié. Avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent cette émission, qui la rendent possible, les patriotes que sont aujourd'hui Thomas Collin, Laurent Lotz, ou plutôt Laurent Lotz, qui sont deux personnes différentes, Sébastien Karadec, Renaud Dier et Stéphane Lioret, qui est le producteur de cet épisode spécifique. J'espère, chers tous, que vous aimez Apple, parce qu'on va parler... Alors, pas que d'Apple, hein. On a quand même des news assez intéressantes sur Huawei qui parle un petit peu de Harmony OS un petit peu plus. On a Donald Trump contre Facebook et il y a des choses très intéressantes qui se passent à ce niveau-là. Twitter qui fait évoluer son service, des choses qui se passent autour du Bitcoin et d'El Salvador qui en fait une monnaie officielle. Plein de choses intéressantes, mais évidemment, semaine de WWDC, Worldwide Developer Conference d'Apple, là où ils présentent leurs nouveaux OS. On n'y coupe pas, on va forcément parler de ce qui se passe du côté d'Apple, d'iOS, d'iPadOS, de macOS et de tous les OS, avec, bien sûr, comme toujours, une focalisation laserifique sur ce qui est vraiment intéressant pour tout le monde, ce qui est à retenir, peut-être en plus de quelques sujets qui n'en intéresseront que certains, mais je crois qu'encore plus cette fois-ci que les fois précédentes, je vais oser le dire, il y avait une sorte de faisage de mousse dans cette conférence qui est
de
comme on sait une moussification, voilà, une moussification. Et comme on sait, dans la mousse, il y a surtout de l'air. Donc, c'est un petit peu vide. Oh. Et je pense que je vais être seul contre tous dans mon analyse de cette WWDC. C'est pourquoi je vais laisser à Cédric, enthousiaste, comme toujours, la première analyse et la première... D'une manière générale, on va revenir sur les nouvelles fonctionnalités de chaque OS et des détails dans un instant. Mais d'une manière générale, qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence, de cette présentation et des nouveaux OS ?
Le problème de fond de WWDC, comme ils appellent ça... c'est qu'il y a toujours un soupçon de déception en fait. Pourquoi ? Parce qu'on aimerait voir apparaître du hardware et que ça arrive de temps en temps qu'Apple dévoile du hardware. Par exemple, quand il inaugure une nouvelle plateforme et qu'il est bien forcé de mettre au courant ses développeurs en avance de phase, j'ai envie de dire. Du coup, on attend toujours quelque chose qui finalement vient assez rarement parce que WWDC c'est une conférence sur le logiciel. Donc on est à la fois un peu déçu, mais on n'a pas le droit d'être déçu parce que finalement il n'y a pas eu de promesses particulières, donc c'est voilà, il y a toujours ce petit paradoxe. Après on sait ce qu'on vient voir, on vient voir le nouvel iOS, on vient voir le nouveau macOS, on vient voir la convergence des deux dans iPadOS, WatchOS. Moi j'avoue, bon, c'est difficile d'innover de manière très marquante dans ces tout petits formats. Je sais pas si c'est toi qui va être le plus le moins enthousiaste et moi le plus enthousiaste. Moi, je vais être plus assez, je pense, mesuré. Bon, il y a des jolies nouveautés, enfin améliorations incrémentales, j'ai envie de dire, quelques nouveautés, mais bon, il n'y a pas de quoi se... Non, on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Il n'y a pas un moment où on a fait genre... Fucking amazing. Tu vois, il n'y a pas un truc genre prenez mon argent maintenant. Non, non, voilà.
J'irai même plus loin, moi.
Tu entendras mieux le son des AirPods si tu as des problèmes d'audition. Ok, super, c'est intéressant.
C'est un bon exemple. C'est exactement comment dire, l'illustration parfaite de cette présentation, parce que c'est un truc qui est intéressant pour certains, qui a tout à fait.
Qui concerne des dizaines de millions de personnes. Il y a une vraie belle amélioration. C'est le monotsukuri, c'est le truc à la japonaise. C'est à chaque fois, je m'améliore un petit peu. Mm-hmm. Et ben voilà, c'est super. Mais c'est vrai que tu ressors pas de ça avec des étoiles dans les yeux.
Bah moi, je vais plus loin, comme je le disais. Je trouve que c'était... Alors, pour préciser, les gens le savent, hein, mais c'est pendant cette conférence qu'ils présentent les prochaines versions de tous leurs OS, donc les versions qui seront disponibles à l'automne et qui viennent rafraîchir tous les ans tous leurs appareils, ou en tout cas ceux qui sont compatibles avec ces nouveaux OS. Et en automne, ils présentent également le nouveau matériel, essentiellement les nouveaux iPhones qui vont venir rafraîchir la gamme pour l'année en cours. Donc c'est un moment extrêmement important puisque le logiciel, les OS sont le cœur d'une immense partie des potentielles innovations qu'ils peuvent proposer à leurs clients et aux utilisateurs, on va dire, plutôt que les fans. Et pour moi, ces versions-ci sont les plus... Creuse est un terme qui est un petit peu sévère, donc c'est à celui-là que je pense, mais ce n'est pas celui que je vais employer. C'est les versions les moins nouvelles. Ce n'est même pas une question d'innovation, parce que le terme est un peu calvaudé. On dit souvent innovation, personne n'innove, ou c'est des innovations incroyables, on va dans les extrêmes. Mais il y a peu de nouvelles fonctionnalités vraiment intéressantes, au-delà de choses qui vont peut-être... être apprécié par des gens qui utilisent déjà ces OS, il y a peu de choses notables. C'est peut-être comme ça que je vais le dire. Je trouve qu'il y a peu de choses notables au-delà d'une évolution un petit peu monotone des OS qui arrivent de toute façon. Et c'est la moins excitante de toutes les présentations de nouveaux OS qu'ils ont fait depuis assez longtemps, je crois. Alors, je ne sais pas si c'était pour le camoufler ou si c'était... Mais il y avait beaucoup de gens qui sont venus parler de plein de fonctionnalités et à chaque fois, c'était 2 minutes. Hop, on parle d'un truc et on parle d'autre chose. Et on avance et on avance. Et donc, on a eu l'impression qu'il y avait plein de choses. Et oui, il y avait plein de choses, mais peu de choses vraiment marquantes au final. Et on va parler des différentes choses. Certaines sont très notables et on va en discuter. Mais d'une manière générale, j'ai trouvé que c'était quand même, au final, il n'en ressort pas grand-chose au-delà de l'excitation du moment, quoi. Il y avait relativement peu de substance. C'était la moins substantielle, je trouve, depuis très longtemps.
Je sais pas. Sur la forme, il faut leur reconnaître que... Mais c'est aussi, ils sont adaptés aux médias, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le format d'une conférence live, donc ils savent très bien que tout le monde suit ça sur un écran, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas un public qui réagit, il n'y a pas tout ça, donc ils ont accéléré la cadence, mais ça, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait depuis les dernières keynotes. Donc c'est vrai que tu es sur un format où les trucs s'enchaînent vite, vite, très vite. Parce qu'il y a pas, on perd pas de temps.
Si
un truc t'intéresse pas, tu te dis dans 3 minutes il y a autre chose.
C'est vrai.
Oui, non, bien sûr. Après, là je te parle de la forme.
Mais la forme est aussi une fonction du fond, parce qu'il n'y a pas eu de grosses fonctionnalités qui nécessitaient de s'y attarder pendant 10 minutes, je trouve. Tu vois, c'était que des petites choses. Mais bon, peut-être qu'on peut parler de ces petites choses, justement. On va parler des différents OS. On va commencer avec iOS, bien sûr, qui est sur les iPhones et qui est le plus important OS de la société, de la firme. Ils avaient 4 grands thèmes. Rester connecté, focus, explorer et un autre. Je ne sais plus lequel c'était. C'était explorer et un autre truc et j'ai noté 2 fois explorer. Mais ce n'est pas grave. En gros, ce qu'on a eu, c'est des améliorations pour FaceTime qui se transforme un petit peu, je schématise, mais qui se transforme un petit peu en team, en zoom, donc qui donne la possibilité de faire plus de choses en call, vidéo ou même audio, y compris la possibilité d'envoyer des invitations pour rejoindre un appel FaceTime par le web, ce qui veut dire que c'est utilisable sur Windows ou Android. Ça, c'était extrêmement notable. On peut également regarder ensemble... des séries sur Apple TV+, donc les regarder ensemble, c'est un truc qui flotte depuis longtemps, mais qui n'a jamais été vraiment utilisé. Peut-être que là, ça sera le cas. De la musique, etc. Même son écran, ça peut être pratique pour faire, comment dire, pour débugger l'utilisation d'un téléphone d'un oncle ou d'une tante qui est un petit peu bloquée. Bref, iMessage bénéficie aussi de certaines améliorations cosmétiques. Il y a un angle focus qui permet de mettre des modes pour ne pas déranger ou pour envoyer un message ou en tout cas signaler à la personne qui essaye de nous contacter que maintenant on est occupé, donc ce n'est pas la peine de nous déranger. Il y a également plus de travail sur les appareils eux-mêmes, comme par exemple une sorte de reconnaissance de caractère dans les photos ou dans la caméra qui vont vous permettre, si vous avez une photo d'un numéro de téléphone, vous permettre de téléphoner à cette personne directement ou de faire du copier-coller depuis un texte d'une photo. Plus de contrôle sur la gestion des memories, donc des souvenirs dans votre album photo. Et pour le portefeuille, on a l'ajout des clés et des clés de la maison pour les choses qui fonctionnent avec le nouveau standard, comment il s'appelle, Matter, et peut-être d'autres appareils, mais les clés aussi de votre bureau, d'hôtel, ça peut être pratique pour ça. L'ajout également de cartes d'identité et de documents d'identité aux États-Unis dans un premier temps, avec un test pour les utiliser pour le passage des douanes ou de la sécurité dans les aéroports, mais ça peut être le début de quelque chose de plus. Et les cartes qui ont été encore améliorées dans leur nouvelle version, qui ne sont pas présentes partout, mais qui finissent maintenant par ressembler un petit peu à presque un monde de jeu en 3D, tellement elles sont détaillées avec de l'élévation et qui étaient assez impressionnantes. Donc voilà pour un résumé des annonces, des nouvelles fonctionnalités sur iOS. Il y a, comme je le disais, des choses notables. Qu'est-ce qui t'a frappé ?
Je pense que ce que j'en retiendrai ce qui surnage, c'est FaceTime. Tout à coup, ils se sont souvenus qu'ils avaient FaceTime en disant tiens, c'est tous ces gens qui viennent de passer un an et demi sous Zoom, sous Google Meet et sous Teams. Si on avait un truc à wait, attends, voilà. Et puis c'est bien parce qu'un jour ils vont arriver du coup à tenir. Moi, il se trouve que j'étais dans la salle le jour où FaceTime a été dévoilé par Steve Jobs il y a maintenant 11 ans.
Protocole ouvert.
Où il disait, ce sera... Il faudrait revoir mot par mot exactement.
Il avait dit écrit. Open source, on va l'open sourcer, ça sera disponible à tout le monde.
Non, il avait dit open standards. Je pense pas qu'il a pas dit open source, il a dit ce sera un outil ouvert.
Il a dit que ça serait ouvert et que tout le monde pourrait créer des applications FaceTime. Clairement, ça c'est pas trop.
Jusque-là, bon, on n'y est pas, mais tout à coup, le fait qu'on puisse soudain utiliser FaceTime sans avoir forcément un compte Apple, un device Apple, etc., etc., ça, c'est une vraie bonne nouvelle parce qu'il faut dire que FaceTime était un truc qui passait un peu en déshérence, tu vois, à part pour appeler ta maman si elle a un iPhone. Mais même ma maman à moi, elle est sous signal. C'est un petit shot in the arm, comme on dit. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Au-delà de ça, oui, les clés, les nouveautés dans Wallet, c'est-à-dire que tout à coup, qu'on puisse ajouter autre chose que, tu vois, je sais pas quoi, ton numéro de carte de fidélité X ou Y, c'est-à-dire des pièces d'identité un jour. Et puis, oui, par exemple, que tu puisses, je sais pas, faire une réservation d'hôtel et que l'hôtel t'envoie la clé directement dans ton iPhone, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool.
Je pense qu'effectivement, la chose la plus importante, c'est effectivement l'histoire de FaceTime et la possibilité de rejoindre les appels par un lien, directement par un lien, depuis un autre appareil. Mmh. Parce que la question d'être d'être disponible depuis les autres appareils, c'est vraiment important pour le standard, pour l'évolution du standard. Et le fait qu'on puisse maintenant, enfin, c'est monumental pour Apple, le fait qu'on puisse cliquer sur un lien et depuis un appareil Windows ou Android. Participer à un call FaceTime, c'est très notable. Ouais. Ceci dit, ça ne veut pas dire que FaceTime est disponible sur ces plateformes. C'est uniquement, en fait, c'est uniquement si vous voulez inviter des gens, et ben, si ça vient de vous, c'est pas un problème et c'était nécessaire parce que si c'était pas possible de l'utiliser avec une autre plateforme, bah tout à coup cette fonctionnalité ne sert plus à rien. Donc, mais voilà. Ça veut pas dire que vous pouvez appeler quelqu'un qui est sur une autre plateforme. Enfin, vous pouvez en lui envoyant un lien, en établissant genre un horaire. Enfin, non, c'est juste un lien en fait. c'est pas hyper pratique non plus, quoi.
Non.
Pour la personne qui est sur l'autre plateforme. À noter que c'est un petit peu la même question de gestion d'exclusivité que pour iMessage. C'est un peu, dans les groupes iMessage, la personne qui a la petite bulle verte, bah, elle est un petit peu exclue des groupes de personnes qui ont la bulle bleue. Et c'est un outil de rétention des utilisateurs qui est hyper important pour Apple. Peut-être que FaceTime, c'est un petit peu la bonne... cette solution est la bonne solution intermédiaire pour ne pas devoir tout ouvrir. Je noterai que effectivement le fait de pouvoir partager l'écran, ça va peut-être être pratique avec ma maman quand elle n'arrive pas à trouver une fonction, bah elle peut me partager son écran. Je lui dis voilà, puis là, c'est pratique.
Yep.
Les cartes d'identité, c'est intéressant aussi. C'est le début, je dirais, d'une potentielle très longue marche pour arriver à quelque chose d'utile, mais c'est une première étape. Qui est notable aussi. On parlait pour les AirPods, passons aux AirPods du coup, on parlait du Conversation Boost qui est effectivement... Mais attends, même avant de passer aux AirPods, vous conviendrez que là, on vous a résumé en 5 minutes les différentes fonctionnalités. Il y en a d'autres hein, dont on n'a pas parlé, mais...
Il y en a plein. Moi, j'aime bien Live Text. Live Text dans les photos, c'est-à-dire que tout à coup, la caméra voit du texte dans une photo, elle te permet d'extraire le texte, d'en faire un copier-coller direct. Ça, c'est le type même de truc. C'est un peu comme quand Notes sur iPhone s'est mis à pouvoir faire des scans propres de documents de manière simple. Bon, c'est bête, mais tout à coup, ça te rend plein de services au quotidien. Mais voilà, c'est des petites choses. Tu ne te relèves pas la nuit pour ça.
On est d'accord. Et justement, le Conversation Boost, c'est assez pratique. C'est une des améliorations des AirPods. Je note aussi qu'il est possible qu'on ait du matériel à l'automne qui nous amène des fonctionnalités totalement incroyables qui feront que tout à coup, iOS 15 va changer de couleur. Ça me paraît peu probable.
Évidemment.
Mais bon. Donc, ce Conversation Boost, c'est extrêmement pratique pour certains. Si on a une difficulté d'audition, eh bien, l'AirPod va augmenter le volume de la voix, a priori, on verra comment ça fonctionne, mais de la personne qui est en train de vous parler, donc la personne qui est devant vous en train de vous parler. Je suis sûr que ça va être très utile pour de nombreux utilisateurs et ça continue un petit peu la tendance qu'a Apple de développer des fonctionnalités pour les personnes en situation de handicap.
Mmh.
Je passe à iPadOS 15, qui là encore a une série de différentes fonctionnalités qui sont plus ou moins notables. Il y a des questions, ils amènent la bibliothèque d'app sur iPad, elle était déjà sur iOS, donc c'est une gestion un petit peu plus facile de son écran de base. Il y a des widgets qui sont maintenant plaçables n'importe où sur les écrans. Là, je pense que, comme à plusieurs reprises dans cette discussion, les utilisateurs d'Android soupirent un petit peu, mais bon, voilà, maintenant, ça sera disponible sur iPad également, avec des widgets super méga grands, qui sont presque des apps, qui font des tailles monumentales. Ça fait genre un quart de la taille de l'écran de l'iPad. Des petits changements minimes, je trouve, pour le multitâche. Enfin, minime, c'est pratique quand on veut l'utiliser, mais là encore, ça ne nous fait pas nous réveiller la nuit. C'est des gestions de l'interface, du passage d'un... de la gestion des fenêtres dans le multitâche, ça sera sans doute pratique, mais voilà, des améliorations pour les notes, pour l'application Traduire qui va nous permettre de nous entraîner peut-être à écrire en japonais ou en chinois ou en différentes langues. Bon, ok, là encore, pas grand-chose d'incroyable. À part peut-être, je me demande si tu sauras noter pourquoi ça m'a particulièrement interpellé, la possibilité pour Swift Playgrounds, oulala, le tonnerre commence à retentir chez moi, il y avait un orage qui était censé arriver, peut-être que ça va arriver pendant l'émission. Il y avait une amélioration à Swift Playgrounds, qui est un outil de développement sur iPad, qui va permettre aux utilisateurs de développer, de construire leurs apps, et ensuite de les soumettre à l'App Store directement depuis l'iPad. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi, moi, c'est la chose que je note le plus ?
Je ne sais pas, parce que tu t'amuses à développer des apps sur Swift Playground ?
Pas du tout, parce qu'il y a en fait un débat qui a été... ça va te revenir. Enfin, tu vas comprendre pourquoi c'est à ça que je pensais. il y a un débat qui a été assez longuement mené sur est-ce que l'iPad est un ordinateur ou pas, et qu'est-ce qui fait qu'un ordinateur est un ordinateur ou pas. Et l'une des définitions que certains ont d'un ordinateur, d'un vrai ordinateur légitime, c'est est-ce qu'on peut, sur cette machine même, développer un programme qui peut être utilisé sur cette machine. Et c'est pour certains la définition d'un ordinateur. Et du coup, cette amélioration à Swift Playgrounds fait que l'iPad rentre désormais dans cette définition qui est peut-être un petit peu arbitraire et voilà, mais non, ça m'a quand même marqué parce que
c'est peut-être une définition un peu doctrinaire, tu vois, c'est-à-dire que je sais pas, c'est pas la seule chose qui fait qu'une machine est un ordinateur pour moi.
Bien sûr.
Pour moi, une machine est un ordinateur si par exemple tu peux explorer son système de fichiers. Bête, hein, mais pour moi ça le fait. Qu'est-ce qu'il y a?
Et pas juste les fichiers, les documents qu'on a comme c'est le cas sur l'iPad, mais vraiment l'architecture logique du système. Ce qui n'est pas le cas sur iPad.
Peux-tu créer un répertoire? Oui, dans Files, tu peux créer des dossiers, tout ça. Enfin, mais c'est pas le, tu vois, où est l'explorateur de fichiers? C'est souvent ce qu'on demande d'ailleurs. C'est aussi ce que demandent les développeurs souvent.
C'est vrai.
Mais oui, le fait que tu puisses développer une application pour la machine sur laquelle tu es est un pas dans la bonne direction. Reconnaissons-le.
Passons à la suite. Vous voyez que quand même, hein, on a fait iOS et iPadOS. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Ils ont beaucoup parlé de vie privée, évidemment. Comme souvent, là, ils ont mis un petit accent dessus encore. Quelque chose de notable dans les questions de vie privée. D'abord, Siri va enfin, deux ou trois ans après Android, faire son processing sur l'appareil. Donc, quand vous parlez à Siri, Yel va vous comprendre... directement, ils n'auront pas besoin d'envoyer vos données sur les serveurs d'Apple pour les analyser et donc comprendre ce que vous dites. Ça sera directement sur l'appareil. Et non seulement c'est notable pour la vie privée, mais c'est surtout, à mon sens, important parce que, comme c'est le cas sur Android, une énorme partie des requêtes, celles qui n'ont pas besoin de faire appel à l'Internet, va s'effectuer beaucoup plus vite. Si vous voulez, baisser le son, arrêter une vidéo, passer en mode... ce qu'on peut faire avec Siri, mais toutes ces choses-là qui sont sur l'appareil, elles vont se faire très très vite. Et pour moi, c'est assez notable. Il y a aussi une fonctionnalité...
Surtout, ça pourra du coup fonctionner hors réseau. Enfin, tu vois, pourra tout à coup demander des choses à Siri dans l'avion.
Tout à fait, oui. C'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi
parce qu'évidemment, il y a quand même de la recherche d'informations. Il y a des choses qui ne se font qu'en ligne. Est-ce que Siri te donnera la météo si tu n'as pas de connexion Internet?
A priori, peut-être que si l'information a déjà été téléchargée sur ton appareil dans l'app météo, qui a aussi été...
Par exemple.
Ouais.
Mais c'est vrai que, par exemple, pour jouer la musique que tu as stockée en local, c'est intéressant. Mmh. Et puis, ça évite de te retrouver. Moi, il y a un coin pas loin de chez moi. Quand je passe en voiture, il n'y a pas de réseau. Donc, c'est vrai que c'est casse-pied.
Et donc,
parce
juste
que là,
à ce moment-là...
Non, ça ne marche pas. là, tout à coup, voilà, Siri ne sera pas genre « sorry ».
Alors, d'autres choses au niveau de la vie privée, un truc qui est pas mal que certains services ont déjà, le Digital Legacy, l'héritage numérique en quelque sorte, qui vous permet de définir un contact qui peut avoir accès à toutes vos données iCloud, donc toutes vos données archivées et sauvegardées, si en cas de décès. C'est un problème auquel évidemment on pense un petit peu plus depuis quelques années, que le web est assez vieux pour que la question se pose, et Internet est assez vieux pour la question se pose. Mais bon, ça sera possible avec iCloud maintenant. C'est d'autant plus important qu'on a de plus en plus de nos informations sur les appareils Apple et nos appareils numériques en général. iCloud Plus, qui est au même prix qu'iCloud aujourd'hui, donc ça, c'est juste un changement de nomenclature à ce niveau-là, pas de changement
de prix.
Alors, pourquoi
se priver ?
Comme ça, tout est plus chez Apple. Mais là où c'est... Alors, c'est vrai qu'il y a déjà une version d'iCloud à laquelle on peut accéder sans payer de ce qui était à l'époque un stockage supplémentaire uniquement, mais maintenant, il y a plus de protection contre la vie privée. Je le dis comme ça, on pourrait rentrer plus dans les détails. On peut avoir des alias pour les emails, quelques trucs du genre. Mais il y a aussi un truc qui ressemble furieusement un VPN. Ils ont appelé ça le Private Relay. Alors, on n'a pas tous les détails du fonctionnement de la chose, mais ce qu'ils disent, c'est que ça passe vos communications par deux relais quand vous accédez. Alors, ils ont pris l'exemple d'un site web. On ne sait pas si ça marche avec d'autres choses. Si c'est uniquement les sites web, ce n'est pas l'équivalent d'un VPN qui couvre toute votre connexion. Mais,
et les applications, bien évidemment, oui.
Et les applications, voilà, c'est ça qui est important. Mais je ne sais pas s'ils ont précisé que ça fonctionnait avec les applications aussi. Hein. Peut-être que oui. Mais en tout cas, ils ont appelé ça un private relay. C'est donc, allez, on va grossir un petit peu le trait. C'est le VPN d'Apple, en quelque sorte. Ça y ressemble, en tout cas. Il faudra attendre d'avoir plus de détails. Mais ça semble également marquer un petit peu plus une chose qui était de plus en plus claire depuis qu'Apple a poussé dans la direction de la vie privée, de la protection de la vie privée, c'est que finalement, mathématiquement, quand on ne paye plus les choses par de la publicité ou par des données qu'on a sur nous, et ben forcément, après, il faut les payer autrement, et c'est souvent avec de l'argent, ce qui veut dire que ça rend la vie privée, l'utilisation de l'Internet vraiment privée, accessible uniquement avec de l'argent, ce qui est notable.
Ah, la vie privée a un prix. Ça là-dessus, on ne peut pas, si tu veux, leur faire de reproches particuliers. C'est-à-dire que c'est vrai que ces services ont dû... D'ailleurs, on a tous des services de VPN qui sont payants. Il faut se méfier des services de VPN gratuits dans l'ensemble. Donc oui, c'est un ajout. Et puis là encore, c'est un bel outil de fidélisation parce que tout ça est packagé. Enfin bon. Oui, c'est bien qu'ils le fassent parce que ça a des vraies vertus en termes de vie privée.
Si on a de l'argent.
Ah bah oui, mais ça c'est... Tu es chez Apple, enfin je veux dire, là déjà, il y avait une barrière à l'entrée hein, déjà c'est dans cet univers.
La santé, ils ont également parlé un petit peu de santé. Le plus notable à mon sens, au-delà de la... Bon, s'il y a quand même le fait qu'ils traquent la manière dont on marche, la démarche tout simplement, et qu'ils peuvent établir des niveaux de risque de chute en traquant la manière dont on marche. Donc, ils appellent ça la stabilité de la marche. Et donc, c'est un outil de plus pour la santé, peut-être chez les personnes âgées ou vulnérables, qui peut être utile. On a aussi des choses sur des choses qui donnent des détails sur les résultats de laboratoire, des tendances sur le long terme des données qui ont été traquées. Mais surtout, on peut désormais, et c'est une chose qui était un petit peu une promesse de la santé connectée depuis longtemps, on pourra partager nos données de santé qui sont présentes sur notre iPhone, si on le choisit bien sûr, avec notre médecin ou même avec des membres de notre famille, ce qui est une évolution intéressante de ces trésors de données en fait, qu'on a sur nos appareils numériques qui n'étaient jusqu'à maintenant pas vraiment facilement partageables. Je précise, le partage avec les médecins passera par des partenariats avec les outils qu'utilisent déjà ces médecins pour stocker et traquer les données. Donc, ça arrivera dans un format, a priori, qui sera utilisable pour eux et facile à consulter. Voilà pour la santé. Quoi d'autre ? WatchOS. Vous savez quoi ? Il n'y a vraiment pas grand-chose sur WatchOS. Hein. Je ne sais pas si toi, il y a des choses qui tombent.
C'est pas une grande année pour WatchOS. Y a pas, mais encore une fois, c'est difficile d'innover de manière marquante dans un si petit format. Je pense que les nouveautés sur WatchOS, elles sont quand même plutôt drivées par le hardware, par les nouveaux capteurs et le reste.
Tu veux dire que le fait de pouvoir faire ton tai chi guidé par ta montre ne t'a pas séduit ? Je suis déçu. HomeKit a également eu droit à une petite section. Bon, plusieurs différentes petites choses. Moi, ce qui m'a marqué, c'était le fait que Siri pourrait désormais être intégré à des appareils de développeurs, de constructeurs tiers. Alors, ils n'ont pas été super clairs sur la manière dont ça fonctionne. J'ai l'impression que ça ne fait que transférer la requête à un HomePod qui est un HomePod mini qui est dans la maison et que l'analyse ne se fait pas sur l'appareil du constructeur tiers lui-même. Donc, je ne sais pas si c'est exactement le cas, c'est possible, mais en tout cas, on aura des appareils qui ne sont pas construits par Apple qui auront désormais Siri compatible, comme c'est le cas avec de nombreux autres assistants virtuels, enfin de nombreux autres, l'assistant de Google et Alexa, on va dire. Donc
voilà. Encore, c'est pas... Voilà. Non, non, plein de choses. Moi, il y a quelque chose que, dans toute la liste, parce que c'est quand même des dizaines et des dizaines de petites nouveautés comme ça, il y a des choses, moi, que je vais utiliser, c'est-à-dire pouvoir mettre des hashtags dans tes notes, dans l'application notes sur iPhone et iPad, ça, c'est intéressant pour retrouver des choses. Enfin, c'est plein de petites choses bêtes, mais on est vraiment dans, voilà, dans, j'ai envie de dire, ce qui est la marche normale des mises à jour d'un OS, des mises à jour fonctionnelles. Il y a d'ailleurs finalement assez peu là-dedans de choses qui concernent les développeurs. Il va peut-être y avoir des choses sur FaceTime, je ne sais pas, mais il faut savoir aussi que ça, c'est la keynote, et puis après, tout le reste, il y a toutes les sessions pour les développeurs, où là, ils rentrent dans Xcode, dans tout ça, et ça, c'était pas le sujet du jour.
Ils en ont parlé un petit peu, c'est vrai, mais attends, justement, on arrive au morceau le plus, alors encore une fois, je vais dire un petit peu décevant, c'est macOS Monterey, qui, au final... si vous suivez bien la manière dont ils ont parlé du nouvel OS, n'a rien qui n'est pas directement issu, en fait, d'iOS. Ou qui n'est pas directement lié à iOS. Il y a une fonctionnalité intéressante qui est dans le cadre de Continuity qui s'appelle le Universal Control, le contrôle universel, qui fait qu'on peut utiliser la souris pour passer de l'écran du Mac à l'écran de l'iPad en la glissant sur la droite ou la gauche, vraiment le curseur arrive sur l'autre appareil et donc on peut faire du drag and drop entre les deux appareils, ce genre de choses. Bon, c'est sympathique, mais c'est vraiment lié aux iPads. Il y a AirPlay to Mac qui fait qu'on peut envoyer une image sur le Mac comme on peut le faire sur d'autres appareils comme des télévisions. Il y avait déjà des applications qui faisaient ça. Il y a les shortcuts qui sont le moyen de scriptage automatisé, on va dire, des appareils iOS qui arrivent sur Mac. Et la plus grosse, je dirais pas que c'est entourloupe, mais ils ont un petit peu essayé de nous flouer. C'est avec le redesign de Safari, dont ils ont fait un assez gros bruit, et qui est effectivement intéressant. Il est plus beau, il est plus mieux designé, etc.
La recherche vocale, oui.
Et il y a des groupes d'onglets qu'on peut sauver et qu'on peut passer d'un groupe à l'autre facilement. C'est bon, c'est pratique, c'est d'autres formes de ce qu'on peut voir ailleurs, sur d'autres OS, d'autres navigateurs. Mais là où c'était vraiment un petit peu malhonnête, c'est qu'en fait, la fonctionnalité est également dans iOS et iPadOS avec un redesign de Safari sur iOS, donc sur les téléphones, qui est assez substantiel. Ce qui fait que ça non plus, qui était un gros morceau dans la description de la nouvelle version du Mac, eh ben, on n'est en fait pas un truc qui vient du Mac. Donc au final, s'ils n'avaient pas parlé de ça... Il n'y avait vraiment rien du tout sur macOS, ou très très peu, et je pense qu'ils n'en ont pas parlé quand ils parlaient d'iOS ou d'iPadOS pour laisser quelque chose à macOS. Moi, je pense que ça a été construit comme ça.
Je suis assez d'accord, parce que la liste des nouveautés de macOS, là, pour le coup, était quand même un petit peu légère. Mais on est en plus dans une situation déjà de transition compliquée, parce que moi, il y a des machines sur lesquelles je refuse de passer à Big Sur, déjà. Parce que j'ai des camarades chez qui ça a posé des soucis, enfin, mais pour des applications spécifiques, hein, pas en général, c'est pas un mauvais OS, mais donc on sent que le rythme j'ai l'impression que le rythme s'est un peu ralenti de ce côté-là. Mais c'est aussi le problème de ce rendez-vous, c'est que la WWDC est un rendez-vous immuable, donc il faut qu'il y ait des choses à présenter à ce moment-là. C'est pas au moins annoncé, et tous les ans.
Et tous les ans. Et je crois qu'effectivement, on arrive à la conclusion. Bon, il y a d'autres petites choses. Il y a de la photogrammétrie pour modeler des objets en 3D directement en prenant des photos par iPhone, qui est intéressante pour la construction 3D et en particulier de la réalité augmentée. C'est encore un outil de plus. Il y a le fait que on va pouvoir visiblement rester sur iOS 14 et recevoir des mises à jour de sécurité. Même après la mise en service de iOS 15, ce qui est c'est la première fois qu'ils vont continuer à soutenir un OS précédent. Et je me demande si ça ne veut pas dire qu'ils vont faire un truc du genre il y aura moins d'appareils qui seront compatibles avec iOS 15, pour une raison que je ne comprendrai pas vraiment. Mais c'est un petit peu surprenant.
Possible, mais tout en continuant les mises à jour de sécurité sur des appareils plus anciens. Ouais.
C'est ça. Mais je ne comprends pas très bien pourquoi ils feraient ça, surtout que cette mise à jour a l'air assez minime. Mais quoi qu'il en soit, on arrive effectivement à la conclusion de cette longue période. Comme tu le disais, c'est un rendez-vous qui est annuel, qui est un petit peu inéluctable, Et évidemment, de temps en temps, peut-être qu'ils doivent prendre une année tranquille. Alors, ils ne peuvent pas simplement dire « Bon, bah, cette année, on n'a pas de nouvel OS » parce que sinon, ça ferait les choux gras de toute la presse spécialisée. Genre « Ah, Apple ne peut pas nous faire un OS cette année. Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est scandaleux. » machin. Mais on sent clairement que, bah, comme je disais, c'était un petit peu de la mousse, quoi. C'était beaucoup d'air et pas beaucoup de savon, je trouve. J'ai l'impression que t'es un peu...
C'est moins rigolo qu'une soirée mousse, en plus.
Je te laisserai la paternité de cette affirmation. Eh bien, écoutez, voilà. J'espère que je n'ai pas fait la pluie sur la parade de ceux qui étaient très contents.
Sur la parade. Il faut que tu arrêtes de parler que anglais, en fait.
Écoute, on me reproche de faire des anglicismes. Malheureusement, oui. Mais comment on dit en français, tiens, si tu fais le malin, comment on dit cette expression « to rain on someone's parade » en français? Peut-être que la chatroom sur Twitch pourra nous le dire.
Mais non, mais Twitch est down comme la moitié de l'internet à l'heure où on se parle. Donc,
Damned.
Et oui, t'as pas vu ça. Hein, t'es très concentré sur ton podcast. Bah mais oui. En fait, il y a un ou plusieurs CDN qui sont tombés et du coup, il y a la moitié de l'internet qui est down. Sauf Twitter qui peut commenter le fait que la moitié de l'internet est down. Mais apparemment, il y a même des gens qui tentaient de te regarder et qui essayent, qui sont sur Twitch et qui disent ça marche pas.
Ça marche pas.
Donc peut-être que c'est en train de revenir.
Bah, l'expression, pour ceux qui ne le comprennent pas, c'est quand quelqu'un est très content de quelque chose, on pluie sur sa parade. Parade qui est aussi un anglicisme, qui est en fait la fête. Et donc, ça veut dire qu'on lui vole sa joie de l'événement. Évidemment, mon idée n'est pas de vous pourrir votre plaisir, mais simplement de faire...
On pourrait dire gâcher la fête.
Voilà, gâcher la fête. Merci JB et merci Cédric. Je ne veux pas vous gâcher votre fête, mais bon, d'après mon analyse, c'est un petit peu comme ça quand même. Écoutez, on va faire une toute petite pause pour parler de Patreon. Est-ce que vous savez ce que c'est que Patreon qui, je suis sûr, fonctionne absolument sans problème? Voyons si c'est le cas. Oui, Patreon et Up, c'est incroyable. Vous pouvez utiliser Patreon pour soutenir le rendez-vous tech sur patreon.com/rdvtech. Vous allez dans les notes de l'émission, vous avez le lien. Et écoutez, si vous appréciez le travail dur qu'on fait sur cette émission, vous penserez peut-être que ça vaut 1 euro. Comme je le dis souvent, si vous êtes content d'avoir l'émission qui arrive dans votre app de podcast le jour, tous les mardis ou tous les mercredis matins quand vous allez au boulot ou quand vous allez faire les courses ou quand vous faites le ménage, vous dites « c'est un peu chiant de faire le ménage ». Oh mais non, c'est pas chiant, j'ai le rendez-vous tech, quel plaisir de faire le ménage. Et bien là, tout à coup, vous vous rendez compte que peut-être le rendez-vous tech, il vaut bien un petit euro ou deux petits euros. Et bien, dans ce cas-là, allez sur patreon.com/rdvtech et devenez patriote. Quand vous êtes patriote, vous avez droit à un flux entièrement sans pub et sans même cette petite partie au milieu que vous... de laquelle vous avancez en appuyant sur plus 30 secondes 4 fois, ce que je regarde quand même avec un œil un petit peu plein de reproches, mais je comprends aussi. Mais non seulement vous n'avez plus les parties pubs, mais en plus vous avez une série de bonus, comme par exemple des éditos. Je vais peut-être faire, tiens, un édito sur la pénurie de puces, parce qu'il y a vraiment des éléments extrêmement intéressants à cet aspect des conséquences de la pandémie. Et peut-être que je vais faire un petit édito, parce que c'est vraiment, vraiment hyper important à comprendre. Donc on va voir, j'espère avoir le temps cette semaine, mais vous avez des éditos de temps en temps, vous avez des contenus bonus, vous avez accès à des trucs, etc. etc. Donc patreon.com/rdvtech, en plus... du fait que vous aurez accès à plein de bonus, c'est surtout le plaisir de soutenir l'émission. Je pense que ça sera un élément important dans votre décision. En tout cas, je l'espère. Patreon.com/rdvtech. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, vous enlevez vos chaussures, parce que, bien sûr, on enlève ses chaussures quand on rentre chez soi. C'est comme le fait de se laver les mains. Ou alors, quand vous vous lavez les mains, ou il faut que je sois plus en phase avec l'époque, quand vous enlevez votre masque, vous dites « Ah, maintenant c'est le moment, il faut que je pense à Patrick. » Donc, cling Patrick, je me lave les mains Patrick, j'enlève le masque Patrick. Il y a vraiment plein de moments où vous pouvez penser à Patrick. Et là, vous allez sur patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et merci à Enfant Terrible qui nous dit « doucher l'enthousiasme de quelqu'un ». On était 12.
Ah, mais oui, voilà.
On a réussi à s'en souvenir. Doucher l'enthousiasme, merci. C'est la meilleure adaptation de l'expression. Alors, parlons un petit peu encore OS, mais d'autres OS que ceux d'Apple. Microsoft a annoncé que le 24 juin, ils allaient nous donner des détails sur la prochaine version de Windows. Donc, on en parlait la semaine dernière, ça arrivera le 24 juin, donc dans deux semaines environ. Donc ça arrive. Mais encore plus important, c'est, à mon sens, la présentation du nouvel OS de Huawei, Harmony OS, dont ils avaient déjà parlé, qu'ils avaient même déjà présenté peut-être. Lors d'une conférence Huawei, ils ont présenté Harmony OS. Et les analyses ont été plutôt froides en disant « Bon, oui, ok, ils sont censés pouvoir le mettre sur tous leurs appareils, leurs montres, leurs tablettes, leurs machins. Mais franchement, pff, ok, c'est un petit fork d'Android. Ça fonctionne pas super bien. C'est un petit peu risible quand même. S'ils veulent se battre contre Android et iOS, ils sont un petit peu en retard quand même. » Enfin, en gros, c'est un petit peu le ton « Ils nous font bien rigoler avec leur OS. »
Oui, mais enfin, au moins, c'est leur OS.
Et voilà. Et moi, je ne suis pas du tout de cet avis dans mon analyse. Mais c'est...
Vas-y.
Alors, ce que je veux dire, c'est que, oui, aujourd'hui, bah, clairement, il ne fait pas le poids. Mais un OS, comme on l'a vu, comme de nombreux autres éléments tech, c'est un élément stratégique, national, important pour tous les pays du monde. Alors, nous, on est potes avec les États-Unis, donc ça va. On peut continuer à utiliser Android ou iOS. La Chine a besoin d'une indépendance. Et à mon avis, même si Harmony OS n'est pas vraiment au niveau aujourd'hui, ils s'en foutent. D'une part, il est fonctionnel. Donc, ils ont besoin de quelque chose de fonctionnel. Et sinon, ils ne peuvent rien faire du tout. Donc, c'est important. Mais ils vont continuer à l'améliorer, je pense. Ils vont continuer à le développer. Mmh. Et puis surtout, le gouvernement chinois, à mon avis, va pousser Huawei dans le sens de Harmony OS. Et ce n'est pas cette année, ce n'est pas l'année prochaine que ça pourra devenir quelque chose d'important. Mais peut-être dans 2, 3, 4 ans, en Chine, dans d'autres pays d'Asie, en Afrique, où la Chine est très présente. Je crois que... c'est pas dénigrer, mais enfin, balayer Harmony OS d'un revers de la main en disant « Ho, 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 regardez ce que nous fait Huawei, c'est... » C'est vraiment une erreur.
C'est un peu comme balayer du revers de la main. Moi, je me souviens de des exposants de smartphones chinois il y a une dizaine d'années au Mobile World Congress à Barcelone. Donc, Huawei, ZTE et les autres, on disait bon, ouais, ok, enfin, c'est des trucs de chinois. Enfin, on entendait ce genre de choses. Comment te dire, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'ils ont changé, d'ailleurs assez rapidement après ça, 3-4 ans après. T'as coup, on rigolait plus. On disait ah oui, non, mais quand même, la photo sur le dernier Huawei, ça déchire. Il y a des vraies innovations. Là, c'est plus qu'un produit, c'est une brique stratégique, en fait, à la fois pour Huawei et puis presque pour le pays tout entier. C'est-à-dire que c'est de dire, bon, peut-être que le temps n'est plus à se reposer sur des systèmes qui viennent d'ailleurs, d'autant qu'ils n'en ont pas besoin. Alors évidemment, la parenté avec Android est quand même assez patente dans l'ensemble. Mais on n'exclut pas qu'un jour ils fassent un vrai OS intéressant. C'est pas et de toute façon ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui.
Mais c'est ça le truc, c'est ça qui est important, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin d'un OS et c'est le candidat le plus sérieux à et qui est clairement un fork d'Android, donc qui est déjà tout à fait fonctionnel et utilisable sur le long terme. Et ils ont d'autres problèmes, Huawei évidemment, mais ça.
Oui,
à moins qu'il y ait un retournement incroyable qui n'a pas l'air d'arriver avec l'administration Biden qui maintient les sanctions de l'administration Trump, à moins qu'il y ait un retournement incroyable, je pense que Harmony OS va continuer à se développer. Et le sous-estimer, c'est faire une erreur. Peut-être pas en Europe, peut-être pas aux États-Unis, mais en Chine, en Asie, en Afrique, il risque de se faire une place. Donc, et c'est un point de départ. Et après, ça peut aller plus loin. Donc, je tenais à le noter. Mmh. Puisqu'on parle de l'administration Trump, on vous disait il y a quelques semaines que que Donald Trump lui-même avait créé une section de son blog qui s'appelait From the Desk of Donald G. Trump, qui était en gros une série de tweets qui étaient publiés sur son site, puisqu'il est banni de Twitter. Eh bien, cette section a été fermée. A été fermé de manière définitive et ils ont annoncé qu'ils allaient continuer leur travail sur les médias sociaux ailleurs et autrement. Donc, l'expérience de publier sur son site n'a pas été fructueuse, ce qui est notable, bien sûr, parce que ça veut dire que ça confirme la puissance des réseaux sociaux, qui n'était pas vraiment une question, hein, mais ça confirme la puissance des réseaux sociaux et que le fait de poster sur son site n'est pas vraiment une alternative. Et on ne peut pas, même si Donald Trump n'a pas réussi à faire de son propre site quelque chose de significatif, ça veut dire que quand on dit « bon bah tu peux publier où tu veux », entre guillemets, il faut quand même le prendre avec un petit bémol, parce que de facto, c'est sur ces réseaux sociaux très populaires que le message peut être porté.
Et bien sûr, la vélocité des messages de Trump, elle tenait aux plateformes et pas forcément au message lui-même. C'est, en gros, il a ouvert un blog et il s'est plaint que les gens ne viennent pas massivement sur son blog. Bon, il faut lui rappeler qu'il n'est plus président, donc ça n'aide pas.
Ça joue aussi.
Et il fait comme s'il l'était encore. C'est fou, quoi.
Pour ceux qui ne savent pas, et ça, c'est en lien avec le sujet d'après. Bon, donc peut-être que je vais le mentionner. Donald Trump a, en gros, il est d'une part encore en train de dire, et selon certains proches, il serait en train de croire qu'il a gagné l'élection. Donc, il est président et qu'il va bientôt devenir président. Il y a un autre élément, c'est que Facebook a annoncé, suite à la décision du conseil de surveillance de Facebook dont on parlait il y a quelques semaines également, qui critiquait la manière dont Facebook avait géré la déplateformisation de Donald Trump. Donc, Facebook a annoncé que la déplateformisation allait durer 2 ans et que donc Donald Trump pourrait réutiliser son compte sur Facebook maintenant ça fait 1 an et demi à peu près, au moment où va commencer la campagne des midterms, ou en tout cas où sera en route la campagne des midterms, qui est la campagne pour la réélection d'une partie du Parlement américain, qui marque les cycles électoraux aux États-Unis. On a la présidence tous les 4 ans et tous les 4 ans en alternance le Parlement. Et donc, c'est un moment extrêmement important, bien sûr. Et beaucoup ont mentionné la chose en disant ah ben voilà, du coup, ça ne sert pas à grand-chose de l'avoir déplateformé. S'il revient au moment des midterms, ça lui redonne sa puissance, sa puissance politique, évidemment. Ceci dit, il y a un autre élément que beaucoup ont oublié, qui a été annoncé par Facebook et qui est extrêmement important, c'est qu'ils ont décidé de faire un petit peu un 180 degrés sur leurs conditions d'utilisation pour les personnalités publiques et les femmes et hommes politiques. Ils ne vont désormais plus faire d'exception pour les messages ou les mises à jour des femmes et hommes politiques. Ce qui veut dire que si ces personnalités publiques contreviennent aux règles, ils pourront se faire sanctionner comme les gens, entre guillemets, normaux. Et pour moi, c'est un élément qu'il est impossible d'ignorer si on veut bien analyser le retour de Donald Trump dans 1 an et demi sur Facebook. On parle de Facebook, pas de Twitter. Mais parce que ça veut dire qu'en théorie, alors on verra si ça sera vraiment le cas, en théorie, s'il sort des clous, et il me paraît difficile d'imaginer qu'un Donald Trump soit sage sur les réseaux sociaux, eh ben il peut se faire rebannir très vite. Donc, c'est important à noter quand on parle de son retour prévu après 2 ans d'interdiction de Facebook.
Ouais, c'est à la fois un très gros avertissement et de fait un changement de politique. Et c'est ça quand même qui est le plus marquant. En fait, c'est pas juste le fait que tout à coup il y a une sanction claire, etc. C'est que de fait la parole des personnes publiques, des élus, n'aura plus une sorte de protection particulière. Parce qu'évidemment, l'explication jusque-là, c'était de dire, bon, ok, il peut leur arriver de dire des énormités, mais le fait qu'ils disent des énormités a une valeur en soi. Et en plus, bon, je pense que diplomatiquement, c'est un peu compliqué de dire non, tout le monde a le droit de parler, sauf le président des États-Unis. Là, c'est une décision qu'elle mérite au moins d'être assez claire. Après, il faudra évidemment voir dans son application, parce que j'ai quand même du mal à croire que le président des États-Unis n'ait pas un tout petit peu plus de marge,
l'attitude, on va dire.
De l'attitude dans le jugement de Facebook que toi et moi.
Oui, c'est possible. On va voir effectivement comment ça va être appliqué. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est ce que demandait ou recommandait le comité de surveillance de Facebook, le fameux dont on a parlé à de nombreuses reprises.
Donc, absolument.
On parlait de Twitter, justement. Bah, écoutez, il y a des choses qui se passent sur Twitter. On avait eu des rumeurs et des tests. Eh bien, ces choses-là se confirment. D'une part, on a le Spaces qui est un petit peu le... Ah mon Dieu, j'ai oublié le nom de cette application. Clubhouse, voilà, c'est le Clubhouse de Twitter. J'ai dû ressortir mon téléphone. Donc, le Spaces de Twitter qui est mis au centre de l'application, de la barre de navigation de l'application pour un certain nombre de gens qui risquent d'arriver bientôt pour d'autres. C'est important, bien sûr, parce que ça veut dire qu'ils mettent Spaces en avant. C'est des salons de discussion vocaux. Ils les mettent beaucoup en avant. Ils ont aussi commencé à publier, étendre le test de Birdwatch, qui est leur fonctionnalité de crowdsourcing de commentaires sur les tweets, dont je suis très curieux de voir ce qu'ils donneraient, parce que c'est fait par des utilisateurs qui vont ensuite noter les commentaires sur des tweets pour dire « ça, c'est pas exact, ça, on peut le dire comme ci, ça, on peut le dire comme ça ». C'est en gros pour essayer une énième solution au fact-checking, à la vérification des infox sur Twitter. Quand c'est crowdsourcé, c'est évidemment délicat, mais ils continuent avec ce test. Et puis, ils confirment leur fonctionnalité Twitter Blue, qui a été lancée au Canada et en Australie, qui est un abonnement à Twitter. Attention, c'est différent des super follow, qui sera des abonnements à des comptes Twitter. Là, c'est un abonnement au service Twitter lui-même qui vous donne des fonctionnalités en plus, comme le fait de pouvoir... désenvoyer un tweet pendant 30 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Dossiers pour vos bookmarks sur différents tweets, un mode lecture, etc., qui facilite la lecture de longs threads, etc., etc. Et ça sera un abonnement qui sera à, on va dire, autour de 4 euros, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins même. Donc, sur tout ça, il y a plusieurs choses sur Twitter. C'est clairement, ça bouge un petit peu du côté de Twitter. Ça a été très statique pendant très longtemps. Et là, les choses bougent un petit peu. Je crois qu'il était temps. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Cédric ? C'est bien, pas bien ?
Je trouve pas encore. C'est bien, mais ça reste un peu... tu vois, c'est un peu comme si Apple te faisait payer une mise à jour d'iOS. C'est-à-dire que c'est plein de chouettes petites fonctions, mais il n'y a pas un truc où je me dis « Ah oui, ça, là, vraiment, take my money, quoi. » Et moi, je pensais qu'ils auraient abordé, parce que ça fait longtemps qu'on leur dit « Bon, finalement, en termes de business, vous butez un peu sur un mur. La publicité, c'est bien, mais c'est limité. » Donc il y a des gens qui seraient disposés à payer pour Twitter, voire même à payer parfois assez cher, surtout des gens qui y trouvent une valeur, c'est-à-dire en gros des marques, des entreprises, des influenceurs. Enfin, tu vois, en gros, si tu as 1 million de Twitter followers et que c'est vraiment ta communauté, ça vaut bien 100 euros par mois, tu vois ce que je veux dire. Alors que pour toi et moi qui en avons un peu moins, est-ce que ça vaut 10 euros ?
Oui, mais comment est-ce que tu différencies ?
Alors là, de fait... Ah bah, tu peux le faire juste par nombre de followers.
Ah oui, d'accord. Donc, à partir d'un moment, tu ne peux plus gagner des followers si tu ne payes pas. Ça serait, oui, ça serait intéressant. Oui.
Je veux dire, si t'as plus de 100 000 followers, ça a forcément une valeur pour toi. Donc voilà. Donc, d'un coup, il y a des gens qui seraient forcés de payer très cher. Tu vois, je sais pas, Barack Obama, enfin bon. Ouais. Elon Musk, enfin bon, mais c'est pas grave, il perd en Dogecoin.
Justement, on arrive au Bitcoin dans une seconde. Hein.
Ah, voilà, ça y est, on respire. Ouais.
Hein, mais, c'est voilà, j'imagine que Twitter a peur que ça fasse partir les gens, mais oui, ça serait possible, je pense.
Est-ce que ça va faire partir des gens qui ont des très grosses communautés? Je sais pas.
Ça dépend combien ça coûte.
C'est une idée, hein. C'est d'ailleurs pas la mienne et je suis même pas certain qu'il l'ait envisagé ainsi. Mais voilà, il leur reste des pistes de monétisation qui, à mon avis, pourraient fonctionner.
Ouais. Bon, il y a aussi, rappelons-le, le fait qu'ils vont avoir leur super follow, dont je pense qu'ils vont prendre une partie, j'imagine, mais on verra. Et ce qui est intéressant avec le super follow, c'est que c'est pas une personne qui paye, mais plein de personnes qui sont abonnées à cette personne qui vont payer. Et donc, chaque personne peut être abonnée à plusieurs personnes potentiellement. Donc, peut-être que le potentiel de revenu est plus important et que c'est pour ça qu'ils vont dans cette direction. Et en parlant de revenus, parlons de Bitcoin, le meilleur moyen de devenir riche très vite. Connaissez-vous cette application qui vous permet... J'ai des gens qui m'envoient... Pas des gens, mais des pubs pour ce genre de trucs tout le temps. C'est terrible. 90% c'est des arnaques, hein, donc vous ne laissez pas avoir. Mais Bitcoin, il y a deux nouvelles intéressantes au niveau politique national, géopolitique même. D'une part, la Chine a bloqué plusieurs applications qui géraient, ou plutôt les comptes de plusieurs entités populaires sur Weibo, l'équivalent de Twitter en Chine, qui gérait du Bitcoin ou qui parlait de Bitcoin ou qui vendait du Bitcoin. En gros, la Chine a dit ça suffit maintenant vos conneries avec le Bitcoin. Ça, mettez-le dans un coin de votre tête. L'autre élément hyper intéressant, qui est diamétralement opposé, on peut le dire, c'est El Salvador, qui a le président d'El Salvador, qui a annoncé qu'ils allaient être le premier pays à accepter officiellement le Bitcoin comme monnaie officielle du pays. Alors, plusieurs choses à noter. Il y a, alors c'est un pays que je ne connais pas bien, donc je ne vais pas me risquer à des spéculations, mais ce qui est établi, c'est que c'est un pays qui a déjà expérimenté avec le Bitcoin par le passé, que ça fonctionne assez bien chez eux, qu'ils ont une énorme partie de la population qui n'a pas de compte bancaire, donc qui paye uniquement en cash, une énorme partie de la population qui vit également à l'étranger et qui renvoie de l'argent au pays avec des charges et des charges sur ces transactions qui sont significatives. Et donc, pour le pays, ça pourrait être particulièrement utile. Aujourd'hui, la monnaie qui est la monnaie du pays, qui est officielle, enfin, qui est sur laquelle l'économie est indexée, c'est le dollar, évidemment. Et à côté de ça, le président est à la tête d'un mouvement populiste qui est un petit peu dans la mouvance méfions-nous de la conspiration internationale, etc., etc. Bref, c'est intéressant de mettre en parallèle les deux événements, la Chine d'une part et El Salvador de l'autre. Et comme je le disais, c'est particulièrement notable parce que c'est la première fois qu'un pays se lance dans cette idée qui avait été évoquée à de nombreuses reprises de faire du Bitcoin la monnaie officielle d'un pays.
Alors, il y avait le Venezuela, il y avait le Bolivar.
Oui.
Bon, ça avait
Dont je ne sais pas où il est allé, mais j'en ai pas plus rien entendu parler. Donc,
c'était qu'il y avait une utilité massive, parce qu'évidemment, c'était sur fond d'inflation galopante, tout ça.
C'était particulier.
Mais je pense que c'est juste le début d'un mouvement qui va tous nous toucher à un moment. C'est pas rien de secret. Hein. La Banque Centrale Européenne va lancer son expérimentation de comment on appelle ça?
Alors,
de
c'est différent. C'est des monnaies
souveraines numériques.
Voilà, mais c'est des monnaies qui sont numériques. C'est pas des crypto-monnaies. Il y a quand même une grosse différence là-dedans. Et puis, les systèmes d'échange et de... non, parce que les crypto-monnaies... les monnaies numériques, a priori, hein, on ne sait pas exactement comment la Banque Centrale Européenne ou le gouvernement chinois ou le gouvernement américain A priori, ça sera indexé sur la valeur de l'euro en Europe. Tu vois, ça sera pas un
truc, mais ce sera l'euro numérique. C'est ça, ce sera exactement. L'équivalent absolu de l'euro.
Donc il y aura pas les fluctuations qu'on voit sur le Bitcoin. Et puis, n'étant pas une crypto-monnaie, a priori, on n'aura pas le problème de preuve de travail pour validation d'une transaction qui fait que les transactions prennent un peu de temps, consomment beaucoup d'énergie, etc. Avec le Bitcoin, c'est pas prévu pour ça à la base.
Très clairement.
Donc,
le but n'est pas est justement pas que ça fluctue chez nous. C'est-à-dire que et puis ça va pas être une comment dire. C'est pas une monnaie d'investissement. C'est pas tu vois certains te disent que le Bitcoin c'est le nouveau lingot d'or. Là le c'est pas le but. Le but est vraiment de faire une monnaie d'échange. C'est-à-dire pas quelque chose. Parce que le problème de Bitcoin c'est que personne l'utilise pour acheter une pizza. Ça fait longtemps qu'on ne l'utilise plus pour acheter des pizzas parce que les fluctuations sont telles que c'est quand même assez violent. Les transactions qui utilisent du Bitcoin pour acheter autre chose que des crypto-monnaies sont quand même assez rares. Et, mais que les pays s'y intéressent parce que, évidemment, ça a des vertus énormes en termes de fluidité, d'émission de monnaie, parce que émettre de la crypto-monnaie, c'est moins cher que d'imprimer des billets.
Oui et non, hein, tu ne peux pas en émettre facilement. Il faut que les coins soient découverts et il faut les acheter. Pour la crypto-monnaie en général, oui, mais là, c'est le Bitcoin spécifiquement qu'ils utilisent. Donc, ce n'est pas une monnaie sur laquelle ils ont le contrôle. Et c'est une monnaie.
Ah oui, c'est vrai. Non, dont... tout à fait.
Et c'est une monnaie qui peut perdre 30% de sa valeur le jour où Elon Musk décide de tweeter un truc marrant sur les crypto-monnaies, tu vois. Donc c'est...
T'as pas tort.
Je suis très circonspect sur la pertinence de cette décision. En même temps, moi, je ne suis pas salvadorien, je ne sais pas quelle est leur situation aujourd'hui, et peut-être que... Enfin, leur test qu'ils ont fait avec l'utilisation du Bitcoin avait l'air de bien se passer... Je sais pas, je suis préoccupé, disons, on va dire, mais je sais pas. Ça paraît être une fausse bonne idée quand même.
Ouais, il y a un peu de ça. En tout cas, c'est vraiment risqué parce que ça s'appuie sur quand même des fluctuations qui n'ont alors là rien à voir ni avec l'économie du pays, ni avec sa politique, ni avec rien. C'est-à-dire que ouais, les gens qui ont du Bitcoin l'ont bien vu. Ces semaines, ces jours et ces dernières semaines, ça peut monter, ça peut descendre aussi. Bon, faut dire que lissé sur quelques mois ou quelques années, ça a plutôt quand même gravement tendance à monter.
C'est sûr, mais on ne sait pas. Enfin, oui, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est ça le problème. Et quand tu mets... Ah, c'est une monnaie, hein, j'imagine qu'ils ne vont pas sortir le dollar demain. Mais... Quand tu mets un truc dont on ne sait pas et la réaction habituelle des gens quand t'en parles comme monnaie officielle de ton pays, ça me paraît un peu risqué. Mais bon. Allez, quelques news pour terminer. D'une part, le G7 s'est mis d'accord sur un minimum pour l'impôt sur les sociétés dans le G7. Alors, c'est une petite partie des pays du monde. Ça sera discuté au G20 plus tard. Mais ils se sont mis d'accord sur au moins 15% de taux d'imposition. Et la raison pour laquelle j'en parle, ce n'est pas juste parce que j'aime parler du G7 et des sujets politiques, mais c'est évidemment ciblé sur les sociétés de la tech, et on en a beaucoup parlé dans l'émission par le passé, les sociétés de la tech qui jouent fiscalement pour mettre leurs profits dans des pays où la fiscalité est plus avantageuse, de manière à payer évidemment le moins d'impôts possible. Là, c'est un début d'accord pour faire en sorte que cet avantage fiscal soit au minimum réduit. J'imagine qu'il sera difficile à faire disparaître, mais soit au minimum réduit. Et c'est une étape importante dans ces discussions. Mmh. Oui, vas-y, n'hésite
pas. Non, rien à ajouter, vraiment.
Bon. Un drone turc a visiblement indépendamment lancé une attaque sur un humain en Libye en 2020. C'est un drone fabriqué et opéré par la Turquie, mais qui a, donc comme je le disais, sans recevoir d'ordre, sans doute pour une erreur quelconque, ciblé un humain. Alors, on n'a pas les détails, on ne sait pas si effectivement la personne a été touchée, peut-être est décédée, ça semble être le cas. Et c'est notable, bien sûr, parce que c'est la première fois que un un appareil indépendant décide de se lancer dans une attaque sur une personne humaine et la lance. Donc, tous les scénarios un petit peu catastrophes peuvent maintenant trouver leur première étape dans leur réalisation. Et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est le fait que Jeff Bezos va participer au vol inaugural de Blue Origins, qui est sa société d'exploration spatiale. Lui, son frère et le gagnant d'une enchère vont voler dans l'espace, dans Blue Origin. Alors, c'est l'espace qui fait rire certains, quoi. C'est genre, tu vas très très haut, tu vois la courbe de la Terre, mais c'est pas non plus que tu vas voir la Terre comme la petite boule bleue que décrivent les astronautes et les spationautes. Mais
non, tu vas pas aller faire une belote avec Thomas Pesquet. Hein.
C'est voilà,
pas,
c'est
là,
ça.
C'est vraiment, c'est tu montes et ah, c'est beau et tu redescends.
C'est ça. Mais il n'empêche. Alors, je me souviens plus du nom de du vaisseau. New Shepard, voilà, c'est la fusée New Shepard. Il a déjà fait une quinzaine de vols réussis parfaitement sans personne à l'intérieur. Mais là, c'est quand même Jeff Bezos qui va être dedans. C'est quand c'est le 20, c'est ça, le 20 juillet, donc dans un mois et demi. J'espère pour Jeff Bezos que ça va bien se passer. Je ne sais pas si j'oserais y aller.
On lui
moi,
souhaite.
Mais oui, c'est l'un des hommes les plus riches de la Terre qui va... ça faisait toujours un petit peu risqué, j'imagine, de voler dans une fusée. Mais
c'est, voilà. C'est peut-être pour ça qu'il a quitté son poste de CEO d'Amazon. Parce que t'imagines, sinon, à cet instant précis, tu vois l'assureur d'Amazon, genre, excusez-moi, je viens vous voir parce que... Alors, votre idée, là, c'est bien, mais il faut qu'on parle.
Oui, je suis d'accord. C'est vrai que si...
Il a raison, en tout cas, c'est du très, très, en tout cas, c'est de l'excellent marketing.
C'est vrai aussi, oui. Donc voilà pour toutes les news qu'on voulait couvrir. Je pense que ça nous fait une émission fort sympathique et bien remplie.
Oh oui.
On arrive donc à la conclusion de tout ça. Et avant de se quitter, je voudrais évidemment donner à notre ami Cédric l'occasion de nous dire où on peut le retrouver sur Internet. Où es-tu, Cédric?
Le plus efficace, évidemment, c'est sur Twitter, @Cédric. Et puis, vous pouvez aller chercher mon podcast préféré, enfin, pas préféré, mais celui que je fais moi en ce moment, qui s'appelle Les Doigts dans la Prise, hein, qui est un podcast où on ne parle, là, pour le coup, que de voitures électriques, autonomes et tout ça. On rit beaucoup avec mon ami Thomas Degois. Les Doigts dans la Prise, sur vos plateformes de podcast favorites. Si vous écoutez celui ici, vous avez déjà une présomption de compétence sur votre capacité à aller chercher un nouveau podcast. Voilà, allez écouter ça. Il y a beaucoup de trucs dans le dernier épisode. C'est très, très intéressant, vous verrez.
Très bien, Les Doigts dans la Prise. Merci beaucoup, Cédric. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver tout ce que je fais sur notpatrick.com et vous abonner au podcast, ou plutôt vous abonner au Patreon du podcast sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission, ça prend 2 minutes. Et je vous assure, allez regarder ce qu'il y a sur la page, je vous assure que si vous devenez patriote, vous vous sentirez mieux. C'est presque garanti médicalement, pas tout à fait, mais le fait de soutenir un contenu qu'on apprécie, je pense que ça libère des substances chimiques naturelles, j'insiste, dans le cerveau, qui fait que vous vous sentirez mieux. C'est mon avis.
Absolument, je peux en témoigner. Hein, du jour où je suis devenu patriote et où j'ai donné un peu d'argent à Patrick, j'ai bien senti tous mes chakras s'ouvrir et ça n'a pas varié depuis. Donc je ne peux que vous encourager à me suivre dans cette voie.
Merci. Je pense que naviguer autour des termes médicaux, je pense que l'ouverture des chakras, c'est un excellent compromis. Donc, le rendez-vous tech, le podcast qui, quand on le soutient, ouvre vos chakras, c'est parfait. Patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous. Si vous êtes patriote, vous allez avoir l'after show qu'on va enregistrer dans une minute. Et sinon, on se donne rendez-vous dans une semaine. Un peu plus tôt pour le rendez-vous de jeu, si vous écoutez également cette émission-là, avec l'E3 qui arrive, c'est extrêmement actif et extrêmement intéressant. Mais sinon, la semaine prochaine pour le prochain épisode du Rendez-vous Tech. Bisous à tous et à très vite. Ciao, ciao.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.